Dans notre précédente causerie, nous avons étudié les rapports entre la religion et la politique dans le département du Lot, sous le Premier Empire et sous la Restauration. Rapport désormais apaisé après les terribles événements de la Révolution qui avaient abouti à une véritable persécution contre l'Église catholique, déportation, exécution, fermeture des églises, parfois clochers abattus au nom d'une prétendue égalité ou encore culte de substitution de manière à extirper tout ce que le catholicisme pouvait avoir dans l'épaisseur de la société. Bref, tout cela est terminé avec Napoléon Ier qui veut l'apaisement et qui, avec le Concordat, redonne à l'Église catholique une place reconnue, officielle, puisque les prêtres, les évêques sont désormais rétribués par l'État, et qui donne aussi aux évêques et aux prêtres un statut social. Il en est de même d'ailleurs pour les autres religions, c'est-à-dire les réformés, les juifs. Nous connaissons ce système encore dans deux départements français, les départements d'Alsace-Moselle, où le Concordat est resté en vigueur. La période de la Restauration de 1815 à 1830 est certainement celle où l'accord officiel entre religion et politique a été le plus fort. Cet accord qui était parfois dénoncé dans ce qu'il avait d'excessif et de politique. Il y avait une véritable volonté de revanche des tenants de l'Ancien Régime vis-à-vis de tout ce qui avait marqué la France pendant les 10 ans de Révolution. Mais avec la monarchie de Juillet, issue de la Révolution de 1830, qui met au pouvoir Louis-Philippe Ier, roi des Français cette fois, un esprit nouveau apparaît, une véritable réaction contre le cléricalisme de l'ancien gouvernement. Cette réaction s'accompagne de manifestations anti-religieuses. Ce n'est pas une persécution violente comme celle qui s'est déroulée sous la Révolution, bien entendu, mais il faut bien se rendre compte que désormais, à la place de l'aristocratie qui avait trusté les titres et les fonctions sous la monarchie des Bourbons, Louis XVIII et Charles X, c'est une bourgeoisie voltairienne qui arrive au pouvoir. Voltairienne, c'est-à-dire qu'entre religion et politique, c'est la fin de l'entente des 15 années précédentes à Paris, comme dans le département du Lot, qui se confond, nous le savons, avec le diocèse de Cahors. À Cahors, précisément, des troubles apparaissent, singulièrement violents. La municipalité est ouvertement anticléricale. C'est la municipalité qui est dirigée par Étienne Brive, maire de Cahors à ce moment-là. Il a une rue Brive à Cahors, en souvenir de ce maire qui s'est signalé par ailleurs par des travaux d'urbanisme, le percement de rues rectilignes à travers le tissu médiéval aux rues tortueuses du vieux Cahors. Ce maire refusait par exemple obstinément la permission d'ériger une église dans le quartier de Cabessu. Le quartier de Cabessu qui s'était largement développé à ce moment-là, qui comprenait 700 habitants et qui voulait à tout prix une église. Parce qu'il était obligé d'aller à Saint-Georges, c'est-à-dire Fort-Loin, en suivant, en descendant le cours du Lot. Mais, par anticléricalisme, à coup sûr, Étienne Brive et son équipe refusaient de donner la permission. Il y a eu aussi l'affaire du Calvaire, sur l'actuelle place Lafayette, aujourd'hui, au chevet de l'église Saint-Barthélemy. Il y avait trois croix qui avaient été édifiées à ce moment-là, trois croix, avec des personnages de grande dimension, le Christ entouré des deux larrons, le bon et le mauvais larron. Et la municipalité a décidé d'enlever ces croix, c'est-à-dire de les démonter. Et cela a été programmé pour le 22 novembre 1830. L'opinion publique a eu vent de ce projet. Il y a eu des femmes notamment qui se sont agglomérées autour de ces croix, lancées des cendres et des tisons sur les ouvriers. Et les gendarmes qui étaient chargés d'encadrer cette destruction, qui finalement a eu lieu quand même, et le Christ central a été d'ailleurs récupéré et mis à l'intérieur de l'église de Saint-Barthélemy, où nous pouvons le voir aujourd'hui encore. Tout cela est révélateur d'un esprit qui est véritablement devenu anticlérical. Le même jour, c'est-à-dire le 22 novembre 1830, autre manifestation d'anticléricalisme, l'invasion du grand séminaire. Ce grand séminaire qui était à l'époque, dans ce qu'on a appelé plus tard la maison des œuvres, que nous connaissons bien, et ce grand séminaire qui avait été fondé par l'un de Solmignac au XVIIe siècle, qui formait les prêtres très nombreux à ce moment-là, a été saccagé par la foule qui l'a envahi, qui l'a pillé, qui l'a saccagé, et les séminaristes ont été obligés de déménager. Ils ont été provisoirement installés au couvent des Dominicains à Cabessu, c'est-à-dire ce couvent des Dominicains où nous avons l'église du Sacré-Cœur aujourd'hui. Ce n'est que 2 ans après, le 31 octobre 1832, que les séminaristes ont pu réintégrer leur séminaire. L'évêque à ce moment-là, nous l'avons dit, était Monseigneur Dopoul, cet aristocrate partisan de l'Ancien Régime à coup sûr, qui était devenu évêque et qui l'est resté jusqu'en 1841. Monseigneur Dopoul détestait Louis-Philippe, parce que pour lui, Louis-Philippe, le roi, c'était le fils du régicide. En effet, son père, le duc d'Orléans, qu'on appelait Philippe Égalité, avait voté la mort de son cousin, Louis XVI. Par conséquent, Monseigneur Dopoul ne pouvait que détester Louis-Philippe. Et il regrettait évidemment le régime précédent. Il était ce qu'on appelait un légitimiste, c'est-à-dire partisan de la branche aînée des Bourbons, qui avait dû quitter le pouvoir. Le frère d'ailleurs de ce Monseigneur Dopoul était très suspect vis-à-vis du pouvoir, il était militant, il était surveillé par la police pour son soutien aux royalistes d'Ancien Régime. Voilà quelles étaient ses convictions personnelles. Mais évidemment, nous le savons, en raison du concordat, Monseigneur Dopoul était obligé d'avoir un rôle officiel. Aussi, il a fait contre mauvaise fortune bon cœur et il a été obligé de se rallier, au moins en apparence, au nouveau régime. Cela s'est marqué notamment lors de la bénédiction du pont. Dupont, qui porte le nom de Louis-Philippe aujourd'hui, qui a été inauguré le 6 mai 1838. Ce pont remplaçait l'antique pont médiéval Notre-Dame qui s'était effondré, sur lequel on avait, tant bien que mal, rafistolé quelques passerelles en bois, mais tout cela était lamentable. Et finalement, le gouvernement de Louis-Philippe, qui tenait avant tout à la paix, avait eu suffisamment de ressources pour financer ce pont qui avait coûté 600 000 francs, une somme considérable, et qui était nécessaire à la vie de Cahors. Ce pont Louis-Philippe a été béni par l'évêque au cours d'une grande cérémonie, le 6 mai 1838, avec une procession qui est partie de la cathédrale, qui est allée sur le pont, et avec tout le faste des cérémonies religieuses à ce moment-là. En contrepartie, en quelque sorte, de cette bonne volonté, la bénédiction du pont, Monseigneur de Poul avait obtenu que le pont soit, comme le précédent, placé sous la protection de Notre-Dame. Et c'est ainsi que, à l'extrémité du pont, était prévue une statue de Notre-Dame qui avait été présentée à Paris en 1841 et qui a été installée, nous la voyons encore aujourd'hui, en 1852. Sous l'évêque suivant. Cette statue était due à un sculpteur célèbre de l'époque qui s'appelait Pradier. C'est une statue qui peut nous surprendre par rapport aujourd'hui aux traditionnelles représentations de la Vierge. Elle était à l'époque sous un dé de pierre extrêmement pointu, élevé. Ce dé, d'ailleurs, a été supprimé parce qu'il menaçait ruine, il était devenu dangereux. Mais la statue a été maintenue en dépit d'une faction anticléricale de la municipalité de Cahors dans les années 60 qui voulait enlever cette statue sous prétexte que cela gênait la circulation. Mais enfin, le maire a coupé court à ses élucubrations. Malgré tout, dans les campagnes, il est certain que le culte continue sous toutes ses formes, mais il y a parfois un anticléricalisme latent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces prêtres, ces vicaires, étaient souvent jalousés dans nos campagnes qui, sous le Causse surtout, et dans le Ségala, contrairement aux Valais ou au Quercy Blanc, la population paysanne, très nombreuse, était souvent dans le besoin. Et le prêtre, qui était payé par l'État, qui jouissait par conséquent davantage considérable d'une retraite, notamment, on ne peut pas s'imaginer ce que représentait d'avoir une retraite à ce moment-là. Le prêtre était jalousé et il y avait parfois des manifestations d'anticléricalisme. D'anticléricalisme aussi contre les prêtres que l'on jugeait trop sévères. Les prêtres qui voulaient réagir contre les bals qui se déroulaient au moment des fêtes votives et dans toutes les occasions possibles. Et les prêtres, souvent tonnés en chair contre ces bals qui étaient évidemment, à leurs yeux, le signe de la dépravation. Donc, Si, du point de vue politique, l'ambiance n'est pas très bonne entre politique et religion, il y a tout de même persistance du culte avec le régime concordataire pendant ces 18 années de la monarchie de Juillet. Et nous arrivons en 1848, au moment de cette révolution surprise du 24 février 48 qui aboutit à la Seconde République. On ne le dira jamais assez, cette révolution qui a été très rapide. En 3 jours, le régime de Louis-Philippe est abattu alors que personne n'aurait imaginé une chute aussi facile. À quoi est-elle due? À l'aveuglement du roi, certainement, qui refuse obstinément la réforme du système électoral, cette réforme qui ne donnait le droit de vote qu'à une infime minorité de citoyens. Mais la révolution chasse Louis-Philippe et proclame la République. C'est un séisme politique. Une fois de plus, c'est Paris qui a décidé. Une énorme surprise. Mais cette proclamation de la République a été bien accueillie. Le gouvernement provisoire à Paris demande à ce que dans chaque village, il y ait une cérémonie officielle où on proclame la République. Et à l'occasion que l'on plante d'ailleurs des arbres de la liberté. C'est une réaction contre le précédent régime qui, nous l'avons vu, était anticlérical. La Seconde République n'est pas du tout anticléricale, nous le soulignerons. Et les prêtres, dans l'ensemble, dans leur énorme ensemble, ont accepté la révolution dans le diocèse de Cahors et ils ont béni les arbres de la liberté qui étaient plantés sur les places publiques, en général sur la place où il y avait l'église. Parfois, d'ailleurs, ces arbres de la liberté sont encore visibles quand ils n'ont pas été abattus par quelques revanchards politiques au cours des régimes précédents, puisque la France a fait, dans ce 19e et 20e siècle, une grande consommation de régimes politiques. Il faut dire d'ailleurs que les dirigeants de Paris, du gouvernement, provisoire d'abord, ensuite normalement élu après les élections, n'étaient pas hostiles à la religion. Certains pouvaient être anticléricaux, mais dans l'ensemble, pas d'anticléricalisme officiel. Seulement voilà, la grande nouveauté, c'est le suffrage universel. Tous les hommes, évidemment, il n'est universel que pour les hommes, c'est bien connu. Mais tous les hommes de plus de 21 ans pouvaient voter. Autrement dit, en France, on passe à peu près de 300 000 électeurs à 9 millions. Puisque précédemment, c'était les gens les plus riches et les plus aisés qui pouvaient voter. Encore une fois, Louis-Philippe n'avait pas compris qu'il aurait fallu évidemment mettre un terme à un système aussi injuste. Ce qui fait que dans le Lot, dans le diocèse de Cahors, le corps électoral est passé de quelques centaines de votants à 64 000. 1848, c'est le moment où le département du Lot arrive à son sommet de population. 270 000, puis 290 000 habitants, dans une France qui en avait 36, 37. On mesure le poids démographique du département du Lot à cette époque par rapport à ce qu'il est devenu aujourd'hui, 170 000 habitants, dans une France de plus de 66 millions d'habitants. Donc on vote dans le département pour la première fois en masse. Et le département peuplé, je viens de le dire, avait le droit à élire 6 députés. Et parmi ces députés, qui sont républicains, mais républicains très modérés, modérément républicains, comme on a dit parfois, il y avait un des députés qui était d'opinion très avancée, comme on disait à l'époque. C'était un médecin, il s'appelait Labrousse. Il était à la tête d'un journal qu'on appelait Le Réformateur, le titre est tout à fait éloquent, et son programme était évidemment démocratique. C'est-à-dire un programme était à la fois pour l'expression politique du peuple et pour un régime social, pour donner aux plus pauvres la possibilité d'une vie meilleure. Et quand on lit ce journal, Le Réformateur, quand on lit les éditoriaux, il est intéressant de voir qu'il y a eu des références au citoyen Jésus. Le citoyen Jésus qui est présenté comme un réformateur social, quelqu'un qui est pour la justice, qui est pour la fraternité. Et dans un pays qui est marqué par une grande gêne, ce discours pouvait être entendu, même s'il était extrêmement différent du discours officiel de l'Église. En tout cas, dans ces mois qui ont suivi 1848 et qui ont marqué l'année 1849, on assiste dans le Lot à une politisation très rapide. Aux élections suivantes, en 1949, deux socialistes sont élus pour les 6 députés. Et finalement, cette politisation, cette apparition d'élus socialistes va alimenter une inquiétude. L'inquiétude des curés. Des désordres effectivement se produisent et notamment il y a eu des désordres très violents à Bretenoux avec occupation du presbytère. Cette inquiétude va entraîner un retournement du clergé par peur de l'anarchie, par peur des désordres. Le clergé va désormais militer pour le parti de l'ordre. Le parti de l'ordre, c'est-à-dire la crainte de troubles sociaux et parti qui a à sa tête un Bonaparte, le neveu du grand empereur, qui a été élu au suffrage universel, président de la République. Et quand on regarde le résultat de ce vote, on s'aperçoit que il a eu dans le Lot une majorité écrasante à la grande stupéfaction des autorités politiques. Nous connaissons la suite, ce prince-président a confisqué la République et a proclamé le retour à l'Empire le 2 décembre 1851.